que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia. Logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras. En pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas. Dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras. En pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras. En pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Reconocémonos todas mujeres, nos sentirnos.
Bienvenue à La Révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc le générique, c'est l'hymne des femmes que vous aurez peut-être connu en espagnol par Abelas Ainas. Donc je vais commencer par quelques actualités, bon, parmi la foultitude d'actualités féministes que j'ai relevées comme étant un peu choquantes. Comme par exemple, grâce au comité de presse de Oser le féminisme, j'ai appris que le département du Bas-Rhin avait décidé de lancer une journée de l'homme le 19 novembre prochain, sous l'impulsion d'Alfonsa Alfano, qui est conseillère départementale déléguée en charge des inégalités femmes-hommes. Bon, je suis assez atterrée. Visiblement, elle ne sait pas que les inégalités que subissent quotidiennement les femmes et les filles sont structurelles, qu'elles sont les conséquences d'un système millénaire de hiérarchisation entre les hommes et les femmes, et que c'est bien en élevant le niveau des droits et de liberté des femmes à la hauteur de ceux des hommes que nous parviendrons à l'égalité. Donc ce qui me sidère, c'est qu'une conseillère départementale déléguée en charge des inégalités femmes-hommes ne le sache pas. Alors, du coup, Oser le féminisme a bien fait de faire un communiqué de presse et un petit rappel chiffré des inégalités femmes-hommes en France. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, les femmes sont toujours exclues des têtes d'exécutifs locaux. Seulement 16% de femmes maires et 7,5% à la tête de structures intercommunales. Les hommes touchent en moyenne un salaire supérieur de 34,6% en France à celui des femmes, tout emploi et temps de travail confondus. Donc 34,6%. C'est pas négligeable. Dans l'espace public, seuls 2% des rues portent un nom de femme, tandis que dans les rues, 25% des femmes de 18 à 29 ans ressentent de la peur lorsqu'elles sont dans la rue, et que 40% des femmes ont renoncé à fréquenter certains lieux publics après avoir été victimes de sexisme. 86% des Françaises déclarent avoir subi au cours de leur vie au moins une forme d'agression sexuelle dans la rue. En 2016, au cours des 12 mois précédents, 553 000 femmes ont été victimes d'agressions sexuelles. En 2017, 94 000 femmes majeures déclaraient avoir été victimes de viols et ou de tentatives de viol durant l'année écoulée. Ça correspond à 250 femmes par jour ou une femme toutes les 10 minutes. en France. Donc, qu'en est-il de la justice? Eh bien, environ une victime seulement sur 10 porte plainte et seule une plainte sur 10 aboutira à une condamnation du violeur. Ainsi, seul 1% des violeurs sont condamnés. Il faut rappeler à cette Alfonsa Alfano, conseillère départementale aussi, certainement que 99% des personnes condamnées pour violences sexuelles sont des hommes, que 85% des personnes prostituées sont des femmes et 93% sont des femmes étrangères. Voilà, on pourrait continuer longtemps sur ces chiffres. Or, Madame la conseillère départementale affirme que les inégalités sont présentes des deux côtés, que les hommes sont aussi battus, que les pères sont négligés, notamment lors des affaires de divorce. Beaucoup sont privés de leurs enfants ou de leurs droits, je la cite. Doit-on rappeler que si les femmes ont majoritairement, pour répondre à cela, que si les femmes ont majoritairement la garde des enfants, c'est parce que nombre de pères ne la réclament pas. Donc, il faut savoir que dans 80% des cas, la résidence des enfants fait l'objet d'un consensus entre les parents. Donc, ce n'est pas que l'on attribue la résidence à la mère sans que le père et la mère aient dit leur, donné leur accord. Et il se trouve qu'après ce consensus, donc cette discussion entre les parents, les enfants choisissent une résidence chez la mère pour 71% des enfants. La résidence alternée est sollicitée pour 19% des enfants. La résidence chez le père est sollicitée pour 10% des enfants. De plus, en 2015, 34,9% des familles monoparentales disposaient de revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Et près de 40% des pensions alimentaires restent impayées. Doit-on également rappeler que depuis le 1er janvier 2019, à chaque fois, il faut remettre le chiffre à jour parce que quand je reçois une information des articles, le chiffre n'est jamais le même puisque chaque jour, on a un nouveau féminicide. Eh bien, enfin, pas chaque jour, mais chaque deux jours et demi, j'exagère à peine. Donc, 117 femmes aujourd'hui ont été tuées par leur ex-compagnon, soit une femme tous les deux jours et demi. En 2017, 130 femmes ont été victimes de féminicide. La même année, 21 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire intime. Donc, c'est, voilà, la proportion n'a rien à voir. Et il faut savoir aussi, fait très intéressant, que lorsqu'une femme tue son conjoint, eh bien, dans 69% des cas, les hommes tués par cette conjointe étaient auteurs de violences conjugales. Donc, cette réalité est connue de longue date. Mais nous devons encore et toujours la répéter auprès de celles et ceux qui ont pourtant la charge de la faire évoluer. Pourquoi c'est dangereux, donc, enfin, vraiment ridiculement, de prôner donc une journée de l'homme? Eh bien, parce qu'une symétrisée des violences qui sont massives, qui sont structurelles, qui sont chiffrées, que subissent les femmes et les filles, avec des vécus personnels non représentatifs d'un système d'oppression, ne sert qu'à freiner le combat pour l'égalité, ainsi qu'à tourner en ridicule les revendications pour les droits des femmes et des filles. En attendant, les violences masculines, sociétales, économiques, physiques et sexuelles contre elles continuent. Donc, une journée de l'homme, c'est une idée qui est fréquemment réclamée par ce qu'on appelle les masculinistes, donc les opposants aux droits des femmes, les opposants au féminisme, qui ne sont intéressés que par le maintien de leurs privilèges. Donc, ça n'a rien d'égalitaire. Au contraire, une telle provocation ne viserait qu'à refuser, une fois encore, de visibiliser celles qui sont les victimes des violences systémiques des hommes, c'est-à-dire les filles et les femmes. Donc, Osez Féminisme a fait un communiqué de presse en demandant le retrait de ce projet qui témoigne au mieux d'une méconnaissance des enjeux de l'égalité femmes-hommes et appelle le département du Bas-Rhin à mener une politique d'égalité volontariste, notamment en soutenant les associations de terrain. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que fin 2016, suite au désengagement financier du département du Bas-Rhin, un centre d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences avait été contraint de fermer ses portes. Voilà. Alors, une autre actualité qui m'a aussi bien choquée en France, que vous avez sans doute entendue, il s'agit du procès en diffamation qui est intenté par Éric Brion à Sandra Müller. Il a gagné son procès. Il y a de nombreuses associations féministes qui, tout comme moi, l'ont déploré, évidemment, et ont fait une tribune. Balance ta justice patriarcale. Nous savons ce que nous devons à Balance ton porc. Des militantes féministes déplorent donc cette condamnation de Sandra Müller pour diffamation. Nous, femmes et militantes contre le sexisme, nous savons aujourd'hui ce que nous devons à Balance ton porc et à Sandra Müller et nous lui exprimons toute notre solidarité à la suite de ce procès en diffamation que lui a intenté Éric Brion, qui lui inflige donc une amende de 15 000 euros. Le but d'une sanction aussi lourde est certainement de la rendre insoutenable à Madame Müller et dissuasive pour beaucoup d'autres femmes. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre la parole. Un environnement sexiste subit au quotidien. Toute la force et l'originalité de Balance ton porc, Time's Up et Me Too a été d'étendre la question des violences contre les femmes à tous les comportements sexistes, à tout l'environnement sexiste qu'elles subissent au quotidien. Or, les comportements qui peuvent apparaître les plus anodins, moins graves qu'un harcèlement sexuel ou qu'une agression, sont de fait les plus massifs, les plus répétitifs dans la vie des femmes. Dans une enquête du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, donc le sigle c'est le CSEP, de 2015, 80% des femmes déclaraient être régulièrement confrontées à des propos ou des décisions sexistes au travail. Donc on ne parle pas souvent assez non plus du sexisme au travail. C'est pour cette raison qu'elles ont été si nombreuses à exprimer leur colère, à mettre des tweets sur leur vécu et leur expérience. Qu'avait dénoncé Sandra Müller dans son tweet ? Un homme qu'elle connaît l'aborde à une soirée. « Tu as de gros seins, tu es mon type de femme », lui lance-t-il, sans plus de façon. Elle lui fait clairement comprendre qu'elle n'est pas intéressée. De son propre aveu, Éric Brion est vexé. Il a bien compris le stop et il s'est permis de rajouter revanchard « Je vais te faire jouir toute la nuit ». Cette tirade n'était plus dans l'intention de la convaincre, de la séduire, mais de se venger et d'exprimer qu'il n'acceptait pas son nom. À ceux qui pensent encore que ce serait plutôt des profils de jeunes mecs peu éduqués qui commettraient de telles grossièretés machistes à l'intention d'une passante qui les a éconduits, le cas Brion nous rappelle que, quel que soit le milieu, cette intolérance au nom des femmes concerne des hommes que la société considère plus respectueux du fait de leur statut social, des barrières qu'elles sont en droit de poser. C'est d'ailleurs le premier intéressé qui en parle le mieux. Il dit, donc je cite Éric Brion, « J'aurais pu nier les faits, comme beaucoup de gens ont pu le faire avant, parole contre parole. Mais j'ai choisi de reconnaître que j'avais tenu certains des propos qu'elle met dans ma bouche, et je n'en suis pas très fière. T'as de gros seins, tu es mon type de femme, j'ai dit ça une soirée arrosée. J'ai été lourd, couillon, j'ai mal agi. Je me suis excusée le lendemain. Je me suis de nouveau excusée publiquement, je regrette. J'ai réfléchi sur ce sujet, évidemment, et j'invite tous les hommes, mais aussi les femmes, qui peuvent parfois agir comme cela, à réfléchir sur leur relation avec l'autre. » Voilà, fin de citation. Or, on peut se demander comment il invitera tous les hommes à réfléchir sur leur relation avec les autres quand on traîne son accusatrice devant la justice. Il s'est dit pas très fier de ce qu'il a fait. On peut se demander s'il est fier aujourd'hui d'avoir fait condamner Sandra Müller. Donc, il aurait pu garder cette posture de mea culpa d'un homme qui a le mérite de réfléchir sur son comportement, d'essayer d'évoluer, de se remettre en question. L'histoire lui aurait gardé une place un peu plus glorieuse. Au lieu de cela, il a fait payer celle qui a pointé du doigt son comportement, qui a permis à des milliers de femmes de le faire au travers de Balance ton porc. Il a reconnu les faits, mais il n'a pas voulu s'en tenir là. Conclusion, nous ne nous tairons pas. Quel message cette décision envoie-t-elle aux millions de femmes en France et dans le monde qui subissent le sexisme et les violences sexuelles? Eh bien, ce message, c'est taisez-vous. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord et nous ne nous tairons pas. Voilà, pour continuer par rapport à l'actualité, donc une actualité nationale et qui est devenue aussi marseillaise, donc et nous en sommes très, très heureux et très heureuses. C'était donc lundi 30 septembre, donc tout récemment, un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux pour se retrouver cours Julien à Marseille, afin d'afficher des phrases choc pour dénoncer les féminicides en France depuis le début de l'année. Donc c'est une initiative qui a été au départ faite par Marguerite Stern, qui est une ex-fémène et qui a commencé les collages à Paris début septembre. Donc Marguerite Stern, que nous saluons les féministes, puisqu'en fait elle est bien connue à Marseille, puisqu'elle vivait à Marseille il n'y a pas très longtemps encore. Donc, juste deux mots sur Marguerite Stern. C'est donc une militante féministe qui est passée par le groupe Femen et donc qui a lancé cette opération à Paris le 30 août dernier, une opération coup de poing. Donc, il s'agit d'inonder les rues de Paris et maintenant donc, puisque ça a suivi dans beaucoup de villes françaises, donc d'inonder les rues des villes des noms des femmes disparues, tuées sous les coups de leur ex-conjoint, de messages choc. On a cherché donc, avec cette initiative, à rendre visibles ces femmes mortes sous les coups de leur ex-conjoint. Et on colle les noms de toutes celles qui ont été tuées depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, on en est à 117, tout en précisant les circonstances de leur mort, étranglées, égorgées, poignardées. Donc l'idée est de décrire les choses comme elles sont. Les détails sont peut-être sordides, mais c'est la réalité. Et il faut que les gens se rendent compte de la violence extrême à laquelle ont été confrontées ces femmes. En outre, on a tenu à mettre en avant des messages plus généraux. Par exemple, « Elle le quitte, il la tue ». En effet, donc, faut savoir, cette phrase, c'est effectivement puisque la rupture est souvent la première cause de féminicide, car l'homme ne supporte pas que sa femme ne lui appartienne plus. Je voulais aussi parler donc à ce propos du 117e féminicide qui est arrivé tout près de chez nous, puisque c'était lundi. Aujourd'hui on est mercredi, donc c'était juste lundi dernier, donc à Égalières dans les Bouches-du-Rhône. Une femme de 40 ans a été tuée par arme à feu par son compagnon Jackie. Donc elle avait 40 ans, Jackie 65 ans. Il a tué sa fille 8 ans. Après avoir appelé une connaissance, il s'est retranché chez lui plusieurs heures avec au moins deux armes à feu. Et il s'est ensuite suicidé. Pour la Provence, que j'ai lu l'article, il semblerait, je cite, « s'agir d'un drame familial ». Voilà, donc je trouve ça incroyable en fait que dans les médias, on arrive encore à minimiser le féminicide, surtout ne pas parler de féminicide, donc en parlant, voilà quoi, c'est un drame de famille en fait. Donc ça, on en revient un peu à cette idée, par exemple, de faire une journée de l'homme, quoi, comme si c'est un problème dans les deux sens. Voilà, donc une histoire de dispute, tout est banalisé. Voilà, que dire d'autre? Bien, en fait, ces collages, je pense que vous avez dû les voir dans les rues de Marseille. Donc, je pense qu'il y aura, ça a été pas mal médiatisé aussi, puisque donc il y a eu des journalistes qui sont venus, donc il y a eu des articles dans la Marseillaise, dans la Provence. Et ces collages se poursuivent évidemment. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr y participer. Donc, vous retrouverez les appels sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'appelle Collectif Féminicide Marseille, par exemple. Il y a Julie et Marion qui font partie de ce collectif qui lance des appels sur les réseaux sociaux. Ces appels aussi sont relancés aussi par des associations féministes comme Oser le féminisme ou Femmes solidaires. Voilà. Et pour finir sur cette histoire de rendre visible les femmes assassinées, et eh bien je vais donc peut-être vous lire juste quelques phrases qui ont été collées donc dans les rues. Voilà. Donc il y en avait énormément de ces phrases, hein. Donc puisque je vous ai dit, c'est autant de phrases que de féminicides, plus des phrases génériques comme le machisme tue. Alors, Catherine, 47 ans, tuée de 13 coups de couteau par son mec, 76e féminicide. Samantha, 43 ans, tuée avec sa fille, 77e féminicide. Yvonne, poignardée par son mari, 78e féminicide. Daisy, 52 ans, tuée à l'arme blanche par son mec, 79e féminicide. Yvonne, 86 ans, égorgée par son mari, 80e féminicide. Mélissa, 26 ans, égorgée par son mari, 83e féminicide. Etc., etc. Voilà. Donc je vais faire une petite pause musicale avec Les gens qui doutent de Anne Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui semblent pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Je suis revenue juste à temps parce que je suis allée me chercher un verre d'eau. Voilà, donc me revoilà. Donc je voulais parler d'une autre actualité par rapport à cette jeune fille iranienne que l'on appelait Blue Girl, qui s'est suicidée en Iran puisque elle n'avait pas le droit d'assister à des matchs de foot. Du coup, actualité bien choquante. Heureusement, il y a la Ligue internationale du droit des femmes, dont la présidente, j'ai eu le plaisir de la rencontrer, qui s'appelle Annie Sujet. Je l'avais rencontrée à Marseille en juin dernier lors d'un événement sur le sport féminin organisé par Femmes Solidaires Marseille. Donc la Ligue internationale du droit des femmes réagit par rapport à cet énorme problème de ségrégation sexuelle des filles dans principalement les pays d'Iran et Arabie Saoudite et dans le domaine du sport qui est très important puisqu'il va y avoir les Jeux Olympiques qui vont être regardés par des millions de personnes, d'humains sur Terre. Du coup, cette Ligue internationale du droit des femmes s'était donc emparée de ce problème, donc de ségrégation des femmes dans le milieu du sport. Et donc avait fait une pétition par rapport justement à ces problèmes et qui s'appelait donc « Non à l'apartheid sexiste en Iran et en Arabie Saoudite ». Donc cette pétition a été relayée par de nombreuses personnalités. Donc, et en fait, là, récemment, donc avec cette nouvelle actualité de cette jeune fille, eh bien, il y a un nouveau communiqué de la Ligue internationale du droit des femmes qui se réjouit d'une décision qui était attendue, mais par contre qui n'a pas été prise encore par la FIFA. Donc une décision qui a été prise, heureusement, par l'UEFA, c'est-à-dire la Ligue des champions, parfois abrégée en C1 et anciennement dénommée la Coupe des clubs champions européens. Donc c'est une compétition annuelle de football organisée par l'Union des associations européennes de football et qui regroupe les meilleurs clubs du continent européen. Donc l'UEFA a décidé donc d'inviter ces 55 fédérations et tous les clubs européens à faire en sorte que leurs équipes ne jouent pas dans ces pays ou contre des équipes de ces pays où les droits fondamentaux des femmes ne sont pas respectés. Sont donc notamment visés l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc l'UEFA rend ainsi un bel hommage au sacrifice donc, de cette jeune fille qui s'appelle Sahar Khodayari, cette jeune supportrice iranienne de foot surnommée Blue Girl, qui s'est immolée par le feu à la suite de son arrestation pour avoir tenté d'entrer dans un stade déguisé en homme. Donc la Ligue internationale des droits des femmes considère qu'il s'agit d'une première victoire dans le combat qu'elle mène avec le soutien, donc, je vous disais, de nombreuses personnalités, de plus de 100 associations et de plus de 350 personnalités pour dénoncer la politique d'apartheid sexuel imposée par l'Iran et l'Arabie Saoudite et demander, exiger que ces deux pays soient sanctionnés avec la même sévérité que l'avait été l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid racial. Reste à savoir si l'invitation de l'UEFA sera suivie d'effet et si la FIFA prendra la même position. Reste à savoir enfin quelle sera l'attitude des autres fédérations internationales sportives et plus largement de l'ensemble du monde du sport, notamment du CIO. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'action donc, de la Ligue internationale du droit des femmes, vous trouverez sur son site toutes les informations. Voilà. Pour compléter si vous n'êtes pas au courant en fait de ce qui se passe dans ces pays, eh bien, faut savoir que la participation donc de ces deux pays aux compétitions internationales, donc l'Arabie Saoudite et l'Iran, est conditionnée à la non mixité des lieux et des compétitions, ce qui est tout à fait scandaleux. Les sportifs qui contreviennent à ces règles se retrouvent poursuivis, harcelés. On peut en citer plein, mais par exemple Sadaf Kadem, qui est la première boxeuse iranienne de l'histoire, elle est en ce moment même menacée d'emprisonnement, ainsi que son entraîneur pour avoir osé pratiquer son sport dans une tenue normale lors d'une compétition le 13 avril. Vous avez Shiva Amini, qui est une star du football iranien, qui vient d'être radiée à vie de l'équipe nationale pour avoir disputé une partie amicale sans voile et en short avec des garçons lors d'un voyage privé en Italie en Suisse. Dorsa Derakhshani, championne d'échecs iranienne, a été sanctionnée pour avoir disputé des compétitions sans porter de voile en dernier lieu au Tradwise Gibraltar Chess Festival de février 2017. Devons-nous fermer les yeux je cite cette pétition donc, que vous pouvez trouver sur le site de la Ligue internationale du droit des femmes non, qui dit très justement « Devons-nous fermer les yeux pour ne pas déplaire à ces riches États pétroliers, théocratiques et autoritaires ?» Hélas, les pays occidentaux sous la pression islamiste acceptent d'accommoder les règlements internationaux à ces pratiques honteuses. Exemple, la levée de l'interdiction du port du hijab fait débat actuellement entre les fédérations internationales et nationales en fonction des intérêts financiers des uns et des autres. Il faut en finir avec les atermoiements et trancher clairement en fonction d'une valeur universelle. Le sport est un droit pour tous, sans distinction de couleur, de classe sociale ou de sexe. Voilà, donc vous pourrez trouver la suite donc sur le site de la Ligue internationale du droit des femmes. Et bon, voilà, pour en finir aussi avec ce thème des inégalités dans le monde du sport, en fait, je veux juste vous citer quelque chose qui m'avait particulièrement choquée, donc je ne savais pas du tout. Ça se passe en France et c'était donc lors de l'événement sport féminin organisé par Femmes Solidaires en juin, donc je l'ai appris avec un débat sur cela, les inégalités, des sportives étaient venues pour nous expliquer, etc. Il y avait donc Annie Sugy et la Ligue internationale des droits des femmes, comme je vous disais, et j'ai appris quelque chose qui est d'après moi vraiment révélateur, qu'on ne s'imagine pas sur les inégalités hommes-femmes, donc représentatives dans le monde du sport. Eh bien, les championnes de snowboard en France, voilà, doivent payer lors des championnats, doivent se payer leur remontée en tire-fesses, voilà. Alors que les hommes n'ont pas à le payer. Donc en fait, elles doivent le payer parce que un manque de sponsors, parce que voilà, le sport féminin n'est pas reconnu. Et il faut savoir que en France, beaucoup de femmes sportives de haut niveau, je ne savais pas, mais ne peuvent pas en vivre, contrairement aux hommes évidemment. Et arrivent souvent à peine à rembourser leurs frais de leur carrière. Donc en fait, souvent, les sportives championnes françaises font un autre métier et ont bien du mal à poursuivre leur carrière. Donc forte inégalité dans le monde du sport qui n'est pas tellement connue. Voilà. Donc maintenant, je vais passer donc, sur la deuxième partie d'émission. À un sujet très important, donc que je n'ai pas encore abordé dans les différentes émissions, c'est la sexualité et puis le rapport avec les religions, les droits des femmes, les violences faites aux femmes, donc grand thème. Et en fait, pour parler de cela, en fait, c'est un documentaire que je vais vous présenter qui aborde tous ces sujets, en fait, de très bonne façon. Donc, sujet sur sexualité et religion, violence faite aux femmes, etc. Il s'intitule « Female Pleasure ». Donc, voilà, je vais vous parler de ce documentaire puisqu'il permet vraiment d'aborder très, très bien le sujet et à travers le portrait, en fait, dans le monde entier, de féministes qui se battent pour une sexualité libérée des violences. Et voilà, ça m'a permis. Donc, en fait, c'était ce film, vous pouvez le trouver sur le site Female Pleasure. Vous pouvez le vous procurer. Et donc, j'ai pu le voir lors d'un événement qui était organisé par Oser le Féminisme 13 à Marseille, il y a quelques mois de cela. Voilà. Et donc, grâce à ce film, j'ai pu connaître le combat de plusieurs féministes dans le monde entier. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, je vais pouvoir vous faire une petite synthèse sur qui elles sont, hein, puisqu'elles existent. C'est un documentaire sur des femmes actuelles dans le monde qui se battent. Alors, comme introduction, il y aurait quelques chiffres sur les violences faites aux femmes, même si j'ai déjà donné pas mal de chiffres. Donc, une femme sur trois dans le monde a subi des violences. 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles. 650 millions de femmes et de filles dans le monde ont été mariées avant l'âge de 18 ans. On estime à 200 millions le nombre de femmes victimes d'excision dans le monde. On estime à 56 000 le nombre de femmes victimes d'excision en France. Voilà, sur les chiffres sur le viol, je ne vais pas y revenir puisque j'en ai déjà parlé au début de l'émission. Donc, le documentaire traite de cinq femmes, de cinq pays et d'un seul combat. Brisons le silence, soyons invincibles, nos désirs font des ordres. On pourrait dire que c'est un peu le mot d'ordre de ces militantes. Il faut savoir que ce film a été ovationné durant plus de 10 minutes lors du dernier festival du film de Locarno. Il a été récompensé à plusieurs reprises et il a été déjà découvert par plus de 100 000 spectateurs après son succès en Allemagne, Suisse et Autriche. Moi, j'espère d'ailleurs que ce film continue à faire un parcours pédagogique. Je le recommanderai par tous les éducateurs possibles, enfin, en termes d'éducation, de prévention, et notamment dans les écoles. Donc si vous écoutez l'émission et que vous avez affaire à un public, vous êtes éducateur, voilà. Sachez que c'est un film très, très... Qui donne lieu ensuite à beaucoup de réflexions, beaucoup de débats sur le sujet des violences et voilà. Alors, je poursuis. Donc, ce film, je vous ai dit, donc il est sorti le 1er mai, il dissèque les conflits entre les religions et le corps féminin. Donc voilà, c'est un thème qui est rarement abordé, hein, à travers les parcours de 5 femmes autour du monde. Donc ce sont des femmes qui ont lutté pour se réapproprier leur sexualité et leur plaisir et qui en sont sorties maîtresses de leur destin. Donc je cite Barbara Miller, elle dit, je me demandais, comment les femmes aujourd'hui, au XXIe siècle, ressentent vraiment leurs relations les plus intimes avec elles-mêmes, avec leur propre corps et avec leur sexualité. Voilà, c'était ce qu'elle voulait rechercher dans ce documentaire. Je me suis rendu compte que pour la plupart des femmes dans le monde, la sexualité, encore aujourd'hui, tient beaucoup plus de l'obligation que du choix ou du plaisir. Et c'est un vrai désastre. En cherchant les raisons et les racines de la discrimination à l'égard des femmes et de leur sexualité, je suis remontée à la manière dont les 5 grandes religions et cultures du monde diabolisent le corps de la femme, à commencer par les livres saints, qui dénigrent les femmes, leur corps et leur sexualité, et les présentent comme la source de tous les maux. Ces deux observations sont le point de départ de Female Pleasure. Donc effectivement, tout au long du documentaire, eh bien, vous avez de nombreuses citations des livres « entre guillemets saints » qui révèle vraiment voilà, cette idéologie sexiste et religieuse. Donc, quelles sont ces femmes ? Dans ce documentaire, donc, vous avez 5 pays qui correspondent à 5 femmes hors du commun. Vous avez donc Deborah Feldman, Leila Hussein, Roku Denashiko, Doris Wagner et Vitika Yadav. Donc, Roku Denashiko, c'est une japonaise qui est connue pour avoir créé l'art vaginal au Japon. Elle réalise des moulures de son vagin pour briser le tabou autour du sexe féminin. Elle a été condamnée au Japon comme une criminelle pour obscénité. Voilà, tout simplement parce qu'elle fait des moulages artistiques autour du vagin. Et donc c'est vraiment, dans un documentaire, on voit que c'est assez incroyable. Cette japonaise m'a beaucoup frappée, donc... Puisqu'elle a beaucoup d'humour, elle est très rigolote. Et pourtant, donc, elle a été poursuivie comme une criminelle. Et il faut savoir d'ailleurs que c'est d'autant plus choquant qu'elle ait été poursuivie pour obscénité, sachant qu'au Japon, je ne savais pas, mais il y a une fête, la fête Shinto du pénis, où en fait tout le monde défile dans la rue, maman, papa, garçon, fille, avec des gros pénis, voilà, pour fêter le pénis. Et les petites filles et les femmes sucent des glaces en forme de pénis, voilà. Donc c'est un pays, voilà, où on peut faire une fête à la gloire du pénis. Un pays assez violent par rapport aux femmes, avec beaucoup de pornographie, beaucoup de prostitution, de femmes, de jeunes filles, des magasins pleins de poupées gonflables, même de petites filles. Mais voilà. Mais par contre, faire des vulves moulées artistiques, c'est criminel. Voilà. Donc je reviendrai encore sur Roku Denashiko tout à l'heure, mais bon, je vais faire un peu le tour donc de tous les pays, de toutes les militantes qui étaient présentées. Donc vous avez une indienne qui s'appelle Vitika Yadav. Donc elle, c'est ce qu'elle a fait en Inde, c'est qu'elle a monté une plateforme qui s'appelle Love Matters pour donner accès à l'éducation sexuelle dans les régions où la sexualité est prohibée ou taboue. Donc là, en fait, on voit son parcours, on la voit voilà, témoigner et tout ça. Et il faut savoir qu'en Inde, elle explique que pour une jeune femme, la sexualité, enfin, même pour les hommes, est très, très taboue. Et les femmes sont victimes très, très, très régulièrement, pratiquement toutes les femmes, toujours, tout le temps, dans l'espace public, sont victimes de harcèlement sexuel. C'est impossible de se promener dans la rue tranquillement sans craindre d'être harcelée. Et donc, elle lutte donc pour une sexualité qui soit libre, qui soit réciproque, pour une sexualité qui soit libérée des violences et des tabous religieux et machistes. Et donc, elle a créé une plateforme, comme je vous disais, qui s'appelle Love Matters, où finalement, elle met en avant le respect, la réciprocité et l'amour. Love Matters, voilà. Et l'amour dans tout ça. Qui permettrait eh bien, d'avoir une sexualité basée sur la réciprocité, le respect, l'amour et non sur la domination et la violence. Donc c'est très intéressant. Vous avez donc une Américaine qui s'appelle Deborah Feldman, donc on voit dans ce documentaire, qui est très connue en fait puisqu'elle a été élue best-seller de l'année 2018 par le New York Times pour avoir rendu publique son histoire, puisqu'elle a été élevée dans une famille juive orthodoxe à New York où en fait elle a été mariée de force à 17 ans. Donc voilà, elle raconte son histoire et puis justement là, elle vous cite les textes sacrés juifs qui voilà quelle est la représentation d'une femme, ce que doit faire une femme, comment doit se conduire une femme, etc. Et notamment voilà dans ce quartier juif orthodoxe à New York, ben elle a été mariée de force. Voilà, donc l'Indienne, elle parle aussi donc de la religion de l'hindouisme. Donc l'Américaine, elle parle de la religion juive. Donc ensuite, vous avez une Britannique qui est d'origine somalienne, Leila Hussein, qui, elle, mène un combat partout dans le monde contre les mutilations sexuelles et pour l'intégrité physique des femmes. Elle a été victime d'excision à l'âge de 7 ans et elle a fondé Dahlia et Daughters of Eve. Il faut savoir qu'elle est encore sujette à de violentes menaces des intégristes. Et puis, vous avez donc la cinquième femme. C'est une femme allemande, donc Doris Wagner, et qui lutte contre les agressions sexuelles au sein de l'Église catholique, après avoir été elle-même victime de viols répétés par l'archevêque de Vienne. Donc, elle aussi, elle a milité. Elle a écrit des livres et bon, elle raconte donc dans ce film, vous voyez tout le parcours, tout le combat qu'elle a fait et elle analyse très, très, très bien l'idéologie chrétienne sexiste de la femme. Elle cite tous les textes sacrés et tout ça pour dénoncer ce que prônent les religions qui diabolisent le corps de la femme et de sa sexualité. Voilà. Donc, en fait, le but de la réalisatrice, c'est d'espérer que ces cinq femmes pourront inspirer les filles et les femmes du monde entier à explorer leur propre corps, à avoir le courage de parler avec leurs partenaires de leurs souhaits et à se dresser contre les dogmes religieux, culturels et sociaux qui leur disent encore qu'elles ne comptent pas. Voilà, donc avant de passer donc plus précisément en fait au thème sexualité et religion, puisque moi aussi en fait j'ai fait mes recherches justement du coup, j'étais donc intéressée par ce sujet, donc je suis allée chercher, je voulais retrouver les citations des textes sacrés qui m'avaient vraiment interpellée dans ce documentaire et en fait donc je les ai retrouvées en cherchant, en faisant des recherches, et donc j'ai retrouvé de nombreuses citations de textes sacrés dont je pourrais vous faire part tout à l'heure. Donc avant, je vais donc vous reparler un petit peu de deux de ces femmes, découvertes grâce à ce documentaire. Donc, vous reparlez de Leila Hussein, donc somalienne, qui vit en Angleterre. Donc, elle est née en 1980. Elle a étudié à Londres. Elle a plus d'une décennie d'expérience de travail sur les soins reproductifs et elle a toujours l'idée d'une sensibilisation auprès des jeunes travailleurs. Elle travaille pour l'African Well Woman Clinic de Waltham Forest où elle rencontre des survivantes de mutilations génitales féminines. Voilà, elle a cofondé une association qui s'appelle Daughters of Eve et c'est une organisation qui est créée pour aider les jeunes femmes et les jeunes filles avec un accent sur l'éducation et la sensibilisation aux mutilations génitales féminines. Donc elle-même est une survivante de mutilations et suite à sa grossesse, elle veut assurer la sécurité physique de sa fille, ce qui l'a inspirée donc à démarrer cette campagne de sensibilisation pour changer la façon dont sont protégées les filles dans le monde. Donc dans le film, il y a une scène qui est très très poignante en fait, que j'ai trouvée poignante et très intéressante. En fait, on voit donc Leïla Hussein dans une action pédagogique par rapport à sa lutte contre l'excision. Et je trouve que c'est vraiment très intelligent d'avoir fait ça de cette façon-là. Et en fait, elle convoque des jeunes, mais des jeunes communautés qui en fait dont elle sait qu'ils pratiquent l'excision ou voilà qui viennent de pays où l'excision se pratique. Donc faut savoir qu'elle se pratique dans de nombreux pays d'Afrique, mais pas seulement Asie et tout ça. Donc elle a fait venir des jeunes hommes et en fait elle leur montre ce que c'est que l'excision sur une vulve colorée en pâte à modeler qu'elle utilise pour informer ces jeunes. Donc en fait on a une énorme vulve en pâte à modeler et elle leur montre toutes les différentes excisions qui existent. Donc il y a 5 types d'excisions. Et voilà, et cette scène est vraiment impressionnante puisque normalement c'est la pâte à modeler, c'est une matière dont se servent normalement les enfants pour jouer. Comme il ne s'agit pas d'une excision réelle, les jeunes garçons, en fait, ce sont là des jeunes garçons somaliens. Ils sont favorables. Normalement, elle savait avant donc de leur montrer cette scène, elle leur avait demandé et ils lui disaient qu'ils étaient favorables à l'excision. Et donc du coup, elle leur montre ce que c'est qu'une excision sur la vulve colorée en pâte à modeler, pour qu'ils parviennent à regarder sans avoir à fermer les yeux ni à détourner les yeux. Mais finalement, ce qui est démontré, c'est la cruauté de cette pratique, dont le seul but est de refuser aux filles une sexualité épanouie. Et finalement, ça marche, cette démonstration, c'est impressionnant, puisque les garçons comprennent enfin ce qu'implique et signifie l'excision. C'est tellement tabou, en fait, qu'ils n'avaient aucune idée, en fait, réellement et concrètement, puisque ce sont des garçons qui sont jeunes, hein, qui ne se sont pas mariés, donc, et puis qui ne savaient pas du tout, en réalité, c'est un sujet, voilà, ils savent qu'il faut le faire, ils pensaient que c'est important. Pour eux, c'est tradition, il faut le faire depuis toujours, etc. Ça ne se discute pas. Mais ils n'avaient jamais réalisé, ils ne savaient pas en réalité de quoi il s'agissait. Et on voit que finalement, on leur en avait jamais parlé. On leur avait juste dit, c'est notre tradition. Il faut épouser qu'une fille qui a subi une mutilation génitale féminine parce que c'est une bonne fille, sinon elle sera impure, elle sera, elle te trompera, etc. Donc ils y croyaient fermement. Et bon, on voit qu'après cette scène, ils arrivent à changer d'avis. On arrive à briser les tabous du silence. On arrive à parler ouvertement de la sexualité. Et le changement est dans les mentalités est possible. Donc voilà, c'est vraiment très 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 beau à voir cette scène et son combat. Donc ensuite voilà, je voulais vous parler aussi donc du combat de revenir un peu sur la militante japonaise. Donc Roku Denashiko. Donc pour une vulve libre, c'est une plasticienne japonaise qui est spécialisée dans l'art vaginal. Donc elle a été inculpée d'obscénité. Elle s'appelle Megumi Igarashi. Elle avait été arrêtée en juillet pour avoir enfreint la loi qui interdit au Japon la représentation des appareils génitaux. Donc au Japon, l'art vaginal ne passe pas. Donc oui, c'était le 24 décembre 2014 qu'elle avait été inculpée pour avoir enfreint cette loi. Et elle a été arrêtée par la police, 6 mois. Donc pourtant, son travail est insolite, il est non dénué d'humour et il vise à casser le tabou de la représentation du sexe féminin dans son pays, où la pornographie est largement diffusée, mais où la représentation des appareils génitaux reste interdite. Ceux-ci sont floutés, pixelisés ou estompés sur les photos, les dessins et dans les films. Donc, finalement, cette japonaise a été soutenue, puisque bon, sur les réseaux sociaux, elle a été soutenue par pas mal de personnalités dans le monde entier. Et elle a réussi à concrétiser un projet qui est assez rigolo, donc un projet ambitieux, qui était de monter à bord d'un canoë conçu à partir d'un moule de son vagin. Et puis, dans le cadre de ce travail, elle a été arrêtée et inculpée. Ensuite, il est reproché à cette plasticienne d'avoir envoyé un scan en 3D de son vagin à plus d'une trentaine de personnes qui n'étaient autres que les participants de la campagne de levée de fonds lancée par l'artiste pour soutenir la réalisation de son bateau. Ces données étaient prévues comme une contrepartie de leur aide et permettent une impression 3D. Et Roroku Denashiko, elle est également connue par ses multiples déclinaisons autour du vagin, dont des dioramas, des petites maquettes, ayant pour cadre son paysage pubien, des coques de smartphone, des bijoux, des gâteaux ou des lampes, des sculptures estampillées d'Ecoman, ou littéralement chatte décorative, man étant le diminutif de manco. C'est un mot cru qu'elle revendique. J'ai été surprise de voir à quel point les gens sont choqués par mon travail, ou simplement de m'entendre dire le mot chatte. Selon Roku Denashiko, le sexe féminin est vu comme obscène car il est trop caché, alors qu'il s'agit juste d'une partie du corps de la femme. Son but est de démystifier les organes génitaux féminins, alors que les illustrations du pénis font partie de la pop culture. Voilà, donc il ne me reste plus beaucoup de temps. Par contre, je voulais vous préciser un petit peu... la thématique, les grandes religions qui diabolisent le corps de la femme et sa sexualité. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Et donc, comme je vous disais, j'ai fait des recherches sur les citations de textes sacrés. Mais bon, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous les lire. Alors, donc on a demandé en fait à ce qu'elle en pensait, donc à cette réalisatrice, de pourquoi est-ce que d'après elle la sexualité féminine était-elle diabolisée dans les textes et sociétés religieuses. Donc elle répond: très bonne question. Je pense que c'est toujours la peur du pouvoir du corps féminin. Donc cela a été beaucoup débattu dans des contextes religieux. Il y a par exemple un livre entier dans le judaïsme qui n'est consacré qu'aux menstruations, des pages entières sur les différentes couleurs du sang utilisées pour définir la pureté ou l'impureté des femmes. Donc j'ai vérifié effectivement, j'ai découvert pas mal de textes dans ce sens. Elle dit: c'est vraiment incroyable. Mais encore une fois, c'est en diabolisant le corps féminin que l'on peut maintenir les femmes dans la peur constante. Une raison principale au tabou du plaisir féminin, la peur masculine du pouvoir du corps de la femme. Les femmes peuvent donner naissance, elles savent engendrer une vie, et c'est la force la plus puissante sur Terre. Gagner du pouvoir sur le corps féminin signifie donc avoir la vie sous contrôle. Cela a dû être la raison essentielle de la diabolisation du corps féminin pendant des milliers d'années, et parallèlement de l'oppression et de la dévalorisation de la féminité, du corps féminin et de la sexualité. Partout dans le monde, les femmes ont le sentiment d'être moins bonnes dans tous les aspects de la vie, que leur corps n'est pas assez beau, qu'elles sont obligées de tout faire pour plaire afin que leur valeur enfin soit reconnue, en occultant leurs propres souhaits, désirs et leurs plaisirs. Donc effectivement, l'idéologie religieuse sur la sexualité des femmes rejoint l'idéologie patriarcale du système patriarcal, où finalement, dans ces textes, on voit que la femme serait inférieure par nature tentatrice, l'homme aurait des pulsions irrépressibles, violentes, donc finalement le corps de la femme ne lui appartient pas. La femme doit être vierge avant le mariage, doit être voilée, son sexe doit être excisé. Puis elle peut être mariée, ensuite elle sera possédée par son mari, mais si elle n'est pas mariée ou si elle n'est pas voilée ou si elle n'est pas excisée, elle sera libre d'être prise, d'être violée, d'être achetée, d'être vendue. Voilà. En tout cas, dans tous les cas, elle sera forcément déshonorée. Elle sera jamais... elle ne sera jamais victime, mais toujours coupable. Euh, voilà. Et puis donc, finalement, pour poursuivre sur cette sexualité féminine, donc le plaisir féminin est d'une part tabou et dénigré, d'autre part voué au phallisme à travers les affiches publicitaires et les productions pornographiques. Je cite toujours Barbara Miller, « Tout vient de la même idée, selon la logique patriarcale qui sous-tend l'oppression de la sexualité féminine dans le monde entier. Objectiver le corps féminin signifie avoir du pouvoir sur lui. Si vous dites aux femmes qu'elles doivent se couvrir et cacher leur corps, qu'elles doivent être totalement voilées ou qu'elles doivent être hyper sexy et prêtes à accepter toute forme de violence sexuelle ou d'humiliation, comme dans la pornographie mainstream, ce sont juste les deux faces d'une même pièce. » Donc finalement, pour lutter contre tout ça, eh bien elle prône, Barbara Miller et puis d'autres évidemment, prône une sexualité féminine, féministe et autodéterminée. Et donc elle souhaite que les femmes prennent leur plaisir au sérieux, être fières d'avoir un sexe de femme, d'être de ce sexe, de faire la part belle à notre jouissance et d'une autre transmission du féminin, qui repose sur la capacité des femmes que nous sommes et celle de nos filles à être libres et maîtresses de notre sexualité. Pour qu'être de notre sexe soit enfin une joie, pour que l'impureté dont il est accusé et qui justifie la barbarie cède place à la révérence, à la jouissance, et devienne synonyme de notre pouvoir enfin retrouvé, de notre appartenance à une lignée de femmes s'aimant au sens propre et figuré. C'est la seule façon dont la sexualité peut vraiment être et devenir un acte agréable et beau pour les deux partenaires. Et en fin de compte, c'est mieux aussi pour les hommes. Cela enlève le fardeau de la performance et de la pression si les deux partenaires partagent la responsabilité du plaisir sexuel. Voilà. Donc vous avez aussi sur le site donc, de Female Pleasure, par rapport, qui est le site relatif à ce documentaire, vous retrouvez aussi Axel Djike, qui est une auteure féministe païenne et créatrice d'un site donc, qui va dans le même sens de cette sexualité féminine autodéterminée et qui a créé donc, un site qui s'appelle parlonsplaisirféminin.com. Voilà, donc c'est un site aussi très intéressant. Et cette Axel Djike est aussi une militante très très importante pour lutter contre l'excision. Voilà, donc pour finir, eh bien, je n'ai pas forcément beaucoup de temps. Je regarde, il me reste 3 minutes pour vous donner quelques petites citations. Par rapport au texte sacré de toutes les religions qui oppriment les femmes. Donc il y en aurait plein, des suites de citations qui mettent en évidence les idées communes à toutes les religions, à savoir qu'une femme ne peut s'épanouir que si elle est une bonne épouse, une bonne mère et évidemment une bonne croyante, à savoir qu'elle n'a pas d'autre existence en dehors de cette identité et que cela justifierait toutes les exactions à son encontre, toutes les violences, etc. De tout temps Quelles qu'elles aient été les religions polythéistes ou monothéistes, les femmes ont été considérées comme inférieures et les différents pouvoirs politiques ont utilisé les religions pour mieux les asservir. Donc pour vous donner quelques citations dans toutes les religions, alors la femme dans le christianisme, on peut se référer aux épîtres de saint Paul. Je vais citer, mais il y en aurait des pages entières, mais je vais vous citer un très court extrait. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, ainsi de même que l'Église est soumise au Christ, que les femmes le soient aussi en tout à leur mari. » Éphésiens 5, 21-25. Plus loin. « Mais toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte manque d'égard à son chef. Si une femme ne porte pas de voile, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Quant à l'homme, il ne doit pas se couvrir la tête, car il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais bien la femme pour l'homme. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête un signe de soumission. » Corinthiens 11, 5, 10. Voilà. Donc là aussi, on peut voir dans l'histoire que le voile, en premier, n'a pas été imposé au départ par les islamistes, mais au départ vient justifié dans la chrétienté, donc par les épîtres de saint Paul. Alors ensuite, la femme dans le Coran. où il est dit, donc voilà aussi il y aurait beaucoup de choses à dire, donc quelques extraits du Coran où il est dit que les hommes peuvent battre leurs femmes au simple soupçon d'infidélité ou quand elles n'obéissent pas, où les femmes menstruées sont déclarées impures, où l'homme peut répudier sa femme, où le témoignage d'une femme ne vaut que la moitié de celui d'un homme, où le garçon recevra une part d'héritage qui sera le double de celui de la fille, où les hommes ont autorité sur leurs femmes du seul fait de la préférence de Dieu en leur faveur, où la virginité et la jeunesse des femmes sont considérées comme des valeurs très importantes, etc. Donc là, il y en aurait donc beaucoup, beaucoup à citer. Voilà, sourate 4, 11. Quant à vos enfants, Dieu vous ordonne d'attribuer aux garçons une part égale à celle de deux filles. Mais il y en a plein d'autres. Sinon, sourate 2, 222. Il t'interroge au sujet de la menstruation des femmes. Dit, c'est un mal. Tenez-vous à l'écart des femmes durant leur menstruation. Ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas pures. Voilà. Donc dans la religion, dans le Talmud, dans la religion juive, la femme dans le Talmud, bah c'est pareil. Selon le Talmud, la femme a peu de valeur par elle-même. Elle est curieuse, bavarde, attachée à son apparence, paresseuse, jalouse, portée sur la sorcellerie. Elle est sous l'autorité du père et du mari qui peut la répudier. Elle se doit d'être modeste, voilée, à partir du moment où elle se marie, et de rester le plus possible à la maison. Le seul rôle valorisé pour elle étant celui de mère et d'épouse. Elle ne peut être ni juge ni témoin. Donc je vais citer juste quelques... parmi le nombre. Tout individu du sexe masculin est tenu de prononcer 3 bénédictions par jour pour remercier Dieu d'avoir fait de lui un Israélite, de ne pas l'avoir fait naître femme, de ne pas avoir fait de lui un rustre. Donc ça, c'est Mène 43b, page 211. Pourquoi avoir choisi la côte d'Adam pour créer Ève ? Dieu se demanda de quelle partie du corps de l'homme il formerait la femme. « Je ne choisirai pas la tête à cet effet, dit-il, afin qu'elle n'élève pas trop fièrement sa propre tête, ni l'œil pour qu'elle ne soit pas trop curieuse, ni l'oreille pour qu'elle n'aille pas écouter aux portes, ni la bouche pour qu'elle ne soit pas trop bavarde, ni le cœur pour qu'elle ne soit pas trop jalouse, ni la main pour qu'elle ne se livre pas à la prodigalité, ni le pied pour qu'elle ne sorte pas continuellement de chez elle. Je vais la tirer d'une partie du corps qui reste cachée, afin de la rendre modeste. » Genèse R 18.2, page 213. Voilà, donc ça c'était des extraits, donc voilà, ce serait faire un article donc, de Michel Sirois qui est anthropologue spécialiste en sociologie des religions. Bon, eh bien je vous laisse et je vous dis merci à, eh bien, à dans 15 jours. Merci. Alors, il faut que je retrouve, excusez-moi ce petit temps. Que je retrouve juste mon générique. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas. Je vais juste vous mettre une autre chanson anti-patriarcat si j'y arrive pour terminer.